chapeau pour l'émission de vendredi et surtout chapeau à cette fille qui témoigne. Elle dit tout, elle a tout dit. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter. C'est une vigoureuse synthèse de toutes les saloperies qui peuvent se passer, je dirais, à l'encontre des gens et contre leur gré. Et je trouve que cette fille a fait une merveilleuse analyse de ce qui était en train de se passer. On va regarder, je pense, maintenant les chiffres qui nous sont donnés en pâture avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de sens critique. On le savait, on l'imaginait, mais pas à ce point-là.
Oui, bonjour. Bah, je viens d'écouter l'émission, là. On est le 30, vendredi, Marie. Vraiment c'était excellent et ce qui serait bien c'est de passer cette émission en boucle du matin au soir et effectivement aussi que les chômeurs ils bougent aussi qu'ils aillent manifester le 4 parce que nous on y sera, ça y a pas de doute que les retraités y aillent, que voilà il faut que tous on y aille. En tout cas cette émission était vraiment très très bien et ce que je peux noter c'est que je suis effectivement une femme. Mais les femmes bougent leur cul plus que les hommes. On a vraiment l'impression que les commerçants, ce sont des gens d'ANPE, mais on avait vraiment l'impression d'avoir affaire, quand c'était des hommes, à des types d'ANPE qui vendent quelque chose, quoi. Les mecs étaient vraiment vachement moins pertinents que Marie. Et voilà. Bon, merci à vous, au revoir.
Bonjour Daniel, c'est Guillaume. Moi, je suis en train d'écouter ton émission sur l'ANPE. Elle m'intéresse beaucoup parce que moi-même, je suis conseiller à l'emploi à l'ANPE, mais en CDD. Alors tu comprendras bien qu'évidemment, je ne donnerai pas mes coordonnées, mais c'est vrai, c'est intéressant d'avoir cette émission parce qu'il y a peut-être des dérives, mais on essaye d'être humain, on essaye de pas tout à fait collaborer, en tout cas moi et les gens avec lesquels je travaille, on n'est pas des mangeurs et des recracheurs de réformes de droite, voilà. On essaye d'être un petit peu humain tout simplement, du mieux qu'on peut. Voilà, bah, merci pour tes émissions et bonne continuation. Au revoir.
Je voudrais simplement réagir aux propos de la conseillère ANPE lors de l'émission de vendredi en citant mon exemple précis et concret. Je suis directeur commercial d'une entreprise et nous recherchons des collaborateurs commerciaux sur Lyon et Paris. Nous sommes bien entendu passés par la ANPE et sur chacune de ces agences, nous avons reçu 2 candidatures.
Je voulais tirer mon chapeau à Marie pour son intervention là, sur ton émission, Daniel, parce qu'il faut vraiment être courageux pour le faire, ouais, ce que risque de sanctions. Et ce que je voulais confirmer, parce que tout ce qu'elle dit est exact, moi je suis moi-même un agent de la NPE, et il est prévu que d'ici la fin de l'année, par exemple, que tous les gens qui sont en ASS, c'est-à-dire en allocation en fin de droit, eh bien, il y en a 230 000 qui vont passer à la trappe. On va les mettre en catégorie 4, comme ça. Le chômage va continuer de baisser. Voilà. Si vous voulez me rappeler, mon téléphone portable, mais je vous dis, c'est très dangereux. Alors, faut faire très attention. Merci. Salut, Daniel. Et bon courage à toi.
Daniel, bonjour. C'est Lilo. Moi aussi, je suis conseillère à NPE. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit ma collègue tout à l'heure dans le reportage. Les employeurs ne sont pas prêts à prendre tout le monde. Ils ne sont pas prêts à prendre tous les demandeurs d'emploi. Ils ne sont pas prêts à prendre des gens qui sont trop âgés. Ils ne sont pas prêts à prendre des gens qui sont trop jeunes et sont sans expérience. Ils ne sont pas prêts non plus à prendre des gens qui sont trop gros, qui sont trop ceci, qui sont trop cela. Ils ne sont pas prêts à prendre tout le monde. Les employeurs de l'hôtellerie qui recherchent des apprentis ne sont pas prêts à prendre des jeunes qui ont 21, 22, 23 ans parce qu'il faut les payer trop cher. Donc l'équation tant d'emplois pourvoir, tant de demandeurs d'emploi, elle est fausse à la base. Je voulais dire aussi que moi, mardi prochain, je vais manifester et je vais manifester pas pour moi, pas pour ma situation, je suis en CDI, mais je vais manifester pour ceux qui sont dans une situation qui est de plus en plus précaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les chiffres du chômage n'ont plus grand sens. Il faut donner les chiffres de la précarité. Au revoir, Daniel.
J'appelle suite à l'interview de Marie. Je suis également agent NPE. Et bon, je vais même aller un peu plus loin dans les propos qu'elle a tenus. Je peux te dire une chose. En fait, les employeurs qui s'adressent à la NPE pour passer leurs offres d'emploi, je vais dire que la grande majorité, la quasi-totalité sont des foireux, sont des gens qui sont pas sérieux et qui sont pas honnêtes. Parce que, connaissant la situation actuelle et la pénurie d'offres d'emploi, une entreprise est vraiment sollicitée en permanence par des personnes et par des candidats pour ses postes. Alors, hein, voilà. En fait, donc une entreprise qui s'adresse à la NPE, c'est que ça lui fait de l'affichage gratuit partout, les sites, des panneaux d'affichage gratuit, diffusion sur un site internet, donc c'est tout bénef pour elle. Voilà, malheureusement, on en est un peu là. Et effectivement, toutes les offres d'emploi, les fameuses 500 000 offres à pourvoir, il faut voir les conditions de travail, il faut voir de quelle façon les gens sont utilisés. De plus, vu j'ai 12 années de pratique dans cette noble institution, sur plusieurs secteurs d'activité divers, et je peux donner à tous les gens qui cherchent du travail une idée du profil type recherché par les entreprises, hein, pour toutes ces entreprises que l'on entend pleurer qu'elles ont des postes à pourvoir et qu'elles n'arrivent pas à trouver le candidat idéal. Bon, il faut avoir 23 à 24 ans, bac plus 5, 15 années d'expérience professionnelle, parler 3 ou 4 langues, maîtriser tous les logiciels informatiques et accepter de travailler en moyenne 60 à 70 heures par semaine pour la moitié du SMIC. Si vous êtes prêt, si vous remplissez ces conditions, il n'y a aucun problème. Je peux vous trouver un boulot très très facilement à travers toute la France. Ciao.
Monique, 59 ans, retraitée. Je viens d'écouter Marie, conseillère à NPE. Eh bien, bravo pour son courage et son honnêteté. Le problème, c'est quand on entend juste après l'émission sur la réalité des chiffres du chômage, on écoute les chroniqueurs qui nous développent les bons résultats du chômage grâce aux effets Borloo. On se dit que mardi, il faut aller absolument manifester contre tous ces manipulateurs de tout poil. Alors, courage, à mardi.
Salut Daniel et toute l'équipe, c'est Jocelyne. Je suis enseignante spécialisée et je n'irai pas travailler. Mardi, je n'irai pas à l'école. C'est pas bien, surtout que notre économie va pas bien. Hein. On dit que ce sont les chômeurs qui sont responsables de tout ce qui se passe en n'allant pas au boulot. Les malades qui creusent le trou de la sécu, les vieux qui coûtent cher, les squatteurs qui nous emmerdent, les squatteurs avec ou sans papier, qui font tâche, les enfants qui apprennent mal à l'école. Hein. Alors, je demande juste à Nicolas où est-ce qu'il va mettre tout ce monde-là. Il n'y a plus de place sur les bancs dans les gares SNCF. On peut plus s'allonger. Il n'y a plus de place dans les squats. Il n'y a plus de subventions européennes pour les faire manger au resto. Alors, on va les mettre sur la planète Mars. Va falloir trouver un grand, grand, grand charter. Et puis surtout, je me demande qu'est-ce qui va rester, hein.
Les mots justes, voilà ce qu'on peut dire de ce que Marie nous a dit dans l'émission de vendredi, le reportage d'Olivia Gesbert. C'était cette conseillère de la NPE qui disait comment les choses se passent à l'intérieur de son agence, à l'intérieur de son métier, à l'intérieur aussi de sa tête et de son cœur, à savoir qu'elle... elle se demande si elle est une collabo ou si elle fait de la résistance, et en cela elle nous ressemble à nous tous, et elle ressemble en tout cas à d'autres des conseillers, des agents de la NPE qui, vous venez de les entendre, se sont sentis eux aussi concernés. Tous sont allés dans le même sens. Il y a eu très très peu sur les quantités de messages qu'on a reçus suite à cette émission de vendredi, très très peu de bémols sur ce témoignage. Aujourd'hui, on retrouve comme chaque mois l'équipe du Monde diplomatique autour du numéro de ce mois d'octobre, avec un papier que je vous signale, que je trouve particulièrement excellent. C'est le papier d'Esther Benbassa, que vous connaissez. Elle vient de temps à autre dans la basse, si j'y suis, au sujet de la condamnation d'Edgar Morin. En cela, elle brise un silence. Edgar Morin, vous le savez peut-être, a été condamné à la suite d'un article publié dans le journal Le Monde. Article d'ailleurs dont nous avions fait une émission, on en avait parlé, on en avait fait une émission d'une heure avec Edgar Morin et Sami Nahir au sujet de ce papier qui critiquait la politique israélienne. Eh bien, pour cet article, Edgar Morin a été condamné, ainsi que le journal Le Monde. Et évidemment, on ne juge pas la justice, mais on peut souligner les faire état des incohérences de la justice. C'est ce que fait Esther Benbassa dans ce papier tout à fait remarquable, où à l'heure où on parle d'Anna Arendt, compare Edgar Morin avec Anna Arendt. Elle dit, est-ce que ce n'est pas Anna Arendt qui a été condamnée le 27 mai 2005 par la Cour d'appel de Versailles pour diffamation raciale après la publication de son Eichmann à Jérusalem. C'est un très beau papier, très courageux, et qui redonne un peu d'espoir, et qui souligne aussi le malaise panique des inconditionnels d'Israël. Alors, aujourd'hui donc, avec le monde diplomatique, et puis demain, nous ne savons pas encore s'il y aura émission, mais quoi qu'il en soit, sur le répondeur de la base CGSU, je vous propose de faire des reportables. Des reportables, c'est des reportages avec un portable. C'est-à-dire, dans les manifs, vous allez vous trouver, peut-être pas tous quand même, hein, eh bien, utilisez vos portables pour nous dire comment ça se passe, pour nous faire entendre les slogans et pour nous décrire un peu l'ambiance et ce qui se passe, ce qui se dit et ce qui se crie et ce qui se chante. Et vous connaissez le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. C'est pas toujours d'une très bonne qualité les portables, des fois c'est très bon. Donc voilà ce que je vous propose pour la journée de demain. Donc on retrouve l'équipe du Monde Diplomatique, auparavant d'autres messages au 01 56 40 37 37.
C'est Marc de Cannes. Je voulais réagir par rapport à l'émission d'aujourd'hui, là, de vendredi. J'ai été absolument, c'est absolument effroyable ce qu'on a entendu, ce que Marie nous a raconté. Je pense que la NPE est comme la justice ou comme toutes ces grandes administrations, est quelque chose qui peut facilement broyer les hommes d'une manière inhumaine, justement. Donc moi, ce que je pense, ce qui serait peut-être pas mal de faire, ce serait d'essayer de se fédérer, que les personnes comme Marie se fédèrent ou essayent de faire quelque chose pour avoir plus de poids, pour pouvoir crier ce genre de choses sur les toits et pour faire bouger les choses. Parce qu'on peut pas vivre comme ça, on peut pas avancer comme ça, c'est pas possible.
Allô, salut, c'est Stéphane des Lyons. On est vendredi soir, il est 20h35. Eh ben, je me suis fadé tout le JT de France 2 jusqu'à la fin, y compris le dernier quart d'heure avec toutes les histoires passionnantes. Eh ben, Béatrice Schoenberg, la sécu, ça l'intéresse pas du tout. Hein. Je crois qu'elle a même pas entendu parler, en fait, de l'histoire des 18 euros, là, qui seront plus remboursés. Personne n'a dû lui dire, en fait. C'est pour ça. Je pense qu'il faudrait lui dire, quand même, ce qui se passe des choses, là. Et puis, Jean-Pierre Pernaut, il a du souci à se faire, parce qu'il a une rude concurrence. Allez, bonne nuit.
Je m'appelle Hervé Artaud, j'habite à Barret, en Loire-Atlantique. Je suis postier, je travaille au guichet de la Poste sur la côte, à Mesquère. Donc, je vous appelle pour vous signaler que mardi, je serai en grève et que j'irai à la manifestation à Nantes avec ma femme, qui est chômeuse, donc comme quoi les chômeurs et les fonctionnaires peuvent manifester ensemble, et parce qu'il y en a un ras-le-bol de cette société qui en donne toujours plus aux riches et qui entraîne toujours plus aux travailleurs et aux chômeurs et qui culpabilise tous ceux qui ont déjà du mal à vivre, comme nous qui avons trois enfants et qui avons beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Autrement, soutien aux camarades de la SNCM, aux camarades de Nestlé, aux camarades de partout en France qui se battent et qui seront dans la rue avec nous mardi. Allez, salut, et j'emmerde les grincheux.
Demain, évidemment, je serai à la manifestation. Moi, j'ai 56 ans, bientôt 57. Je suis dispensée de recherche d'emploi et ne toucherai ma retraite qu'à mes 60 ans. Voilà. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que les chômeurs, les demandes d'emploi et les RMI vont exploser, puisque faut bien qu'on vive de quelque chose. Voilà. Grand merci pour vos émissions. À bientôt.
Voilà, j'appelle tout simplement pour dire... Ah, un bébé qui pleure. Je rappellerai.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec l'équipe du Monde Diplomatique et Give Empty.
Flight number 2, arriving from New York. Ce numéro du mois d'octobre du Monde Diplomatique commence avec votre édito, Ignacio Ramonet, qui s'intitule « Brésil, le gâchis ». Et vous revenez sur les espoirs déçus de la présidence de Lula da Silva et du Parti des Travailleurs, qui ont perdu par exemple la municipalité de Porto Alegre, qui était de prendre rendez-vous des premiers forums sociaux mondiaux. Et là, c'est Lula da Silva qui cet été a été obligé de demander pardon après une suite de scandales qui continue encore aujourd'hui. C'est presque devenu un feuilleton à la presse brésilienne de corruption politique.
Je crois que c'était important d'évoquer cette question, ne serait-ce que, comme vous le dites, parce que nous-mêmes, comme des millions de personnes au Brésil, en Amérique latine, à travers le monde, nous-mêmes, nous nous étions réjouis de la victoire de Lula au Brésil. Il a pris ses fonctions en janvier 2003 et nous l'avions écrit. Nous avions publié un texte qui s'intitulait « Vive à Brésil » avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, il était légitime finalement qu'on accorde pratiquement la même place à dire notre déception.
Et alors, en tout cas, on s'est trompé ou il nous a trompé?
Alors, je ne pense pas que ça se présente comme ça en des termes aussi manichéens, mais il est certain qu'il était indispensable d'informer le lecteur, parce que la question des scandales au Brésil a été distillée dans la presse d'une manière tellement fractionnée, comme d'habitude, finalement, qu'on n'arrive pas à bien voir le problème. Donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est remettre un peu d'ordre et expliquer ce qui s'est passé. Alors, bien sûr, essentiellement, concrètement, il y a maintenant de manière indiscutable une affaire de corruption politique, c'est-à-dire que, bien sûr, le Parti des Travailleurs, qui est tout de même le plus grand parti de gauche en Amérique latine, eh bien, le Parti des Travailleurs, qui est arrivé au pouvoir au Brésil, mais qui ne compte pas sur une majorité, qui n'a pas de majorité au Brésil, est obligé de gouverner avec l'appui d'un certain nombre d'alliés, et très souvent, ces alliés ne suffisent pas pour pouvoir faire passer un certain nombre de lois. Et le système qui a été imaginé par des responsables dans l'entourage du président Lula, et notamment par celui qui est le ministre de la maison présidentielle, qui s'appelle José Dirceu, qui est un homme extrêmement important, avec un passé de militant extrêmement courageux, puisque c'est un homme qui a été torturé sous la dictature, etc. Mais ils ont mis sur pied un système qui leur permettait quasiment d'acheter des députés. On a parlé de mensualisation de ces députés grâce à de l'argent détourné du système financier, et de cette manière s'assurer que pour faire passer telle ou telle loi, eh bien, on pouvait compter sur des députés. On a découvert également que par le biais de caisses, etc., liées plus ou moins au système de aussi bien la publicité que d'autres caisses et d'autres mutuelles, la campagne elle-même de Lula, la campagne victorieuse de Lula, avait été financée, en tout cas en partie, par de l'argent en salle. Bon, alors bien sûr, c'est un scandale qui, jusqu'à présent, n'a pas permis d'impliquer, il n'y a pas aucune preuve n'a été avancée sur la responsabilité de Lula, mais on peut tout de même difficilement croire que le président n'ait pas été au courant d'un système qui était mis sur pied par certains des hommes de confiance du président. Mais d'autre part également, aucune preuve n'a été apportée sur un éventuel enrichissement personnel de ceux qui ont mis sur pied cette affaire.
C'était pour acheter des voix.
C'était pour acheter des voix et c'était en quelque sorte pour faire passer des lois. Le reproche qu'on peut faire à tout ce système, indépendamment de l'immoralité de la corruption, et on pouvait imaginer, alors certains disent, oui mais la corruption elle est, disons, endémique au Brésil. Bien sûr qu'elle est endémique, mais nous pensions qu'avec l'arrivée d'un parti comme le Parti des Travailleurs, avec sa tradition ouvrière, syndicale, avec l'arrivée de quelqu'un comme Lula, dont on sait d'où il vient, né dans la misère, qui s'est fait tout seul, en quelque sorte ouvrier métallurgiste, etc., et qui avait fait de l'éthique en politique le drapeau principal, on pouvait imaginer tout de même que ce genre de pratique serait combattu et en tout cas ne serait pas appliqué. Mais le problème n'est pas là, c'est que en plus de cela, c'est que ce parti, depuis qu'il gouverne pratiquement, en raison des alliances qu'il a passées, est un parti qui a oublié son propre programme. Mmh. C'est un parti, finalement, qui a essayé de faire passer toute une série de lois qui étaient des lois à la limite de l'opposition. C'est-à-dire que le paradoxe le plus scandaleux à la limite de cette affaire, c'est que voilà un parti de gauche qui gouverne et qui achète des députés de droite, donc par le biais de la corruption, pour faire passer des lois de droite. Donc c'est ça qui est évidemment totalement absurde et qui montre bien finalement que lorsque une organisation de gauche arrive au pouvoir avec un programme de gauche, eh bien il vaut mieux que il applique ce programme, parce que c'est ce que souhaitent ses électeurs, même si l'application de ce programme le conduit à se heurter à des difficultés majeures. Mais renier son programme, ce n'est qu'un début qui va conduire à faire des concessions suivantes pour finalement se retrouver dans cette situation. Mmh. Alors au Brésil, bien sûr, les médias exultent, parce qu'il est clair que, disons, le pouvoir médiatique au Brésil, comme le pouvoir économique, n'a pas accepté l'élection de Lula. Pourtant, c'est un gouvernement. On a publié des articles nous-mêmes par un spécialiste brésilien, Emir Sader, qui a bien montré comment ce gouvernement, finalement, oublié, tout en étant sans doute bien intentionné, mais oublié de prendre des décisions capitales. Alors le président Lula ne sera pas probablement destitué, ne serait-ce que parce que celui qui a la possibilité de poser cette question au Parlement, qui est le président de la Chambre, vient d'être élu, et c'est tout de même un allié du président Lula. Mais il est clair que il reste à peu près maintenant un an de mandat à Lula, et il est clair que si au cours de cette année, les politiques pour lesquelles il avait été élu, c'est-à-dire une politique réellement de création d'emplois, une politique d'application de son programme de fin zéro qui n'a pas fonctionné, une politique de distribution des terres en direction des paysans sans terre qui également se sont mobilisés pour son élection, et si une politique vraiment sociale, qui est celle qu'attend une grande partie de la société brésilienne, ne se mettait pas en place, il y aurait sans doute des craintes à avoir, en tout cas pour les partisans d'un Brésil plus juste et plus équitable, devant la perspective d'une élection à laquelle ou pour laquelle Lula ne pourrait pas compter sur l'électorat populaire.
Revenons en France dans ce numéro du Monde diplomatique d'octobre. Avec vous, Serge Halimi, plus au sujet des questions économiques et sociales, en particulier le modèle qui nous sont vantés pour sortir de l'archaïsme français, de notre cul-de-sac de l'État-providence et davantage acquis, j'ai nommé le modèle britannique en l'occurrence. Serge Halimi.
Oui, la question du modèle français ne cesse d'être évoquée depuis quelques années, et naturellement toujours dans le même sens, qui est le sens que lui a donné Nicolas Bavré, qui écrit des articles dans Commentaires, dans Le Point, dans Le Monde et ailleurs, sur le thème de la France qui tombe, et qui est un thème qui a été repris ensuite par le rapport Camp Dessus, commandé par Sarkozy, qui est repris par un livre de Christophe Lambert, qui a fait l'objet d'une vaste campagne d'affichage, parce qu'il est patron de Publicis France. Bref, on voit ces idées-là, dont certaines sont infiniment plus médiatisées que d'autres, qui vont toutes dans le même sens, qui me rappellent un peu cette pièce de Molière, où vous avez Toinette qui, voulant convaincre le malade imaginaire qu'il faut se méfier des médecins, à chaque fois qu'il invoque un symptôme de son mal, lui répond « le poumon, le poumon, le poumon, le poumon » et lui propose de se faire couper un bras et puis une jambe, ce qui naturellement induit un certain nombre de doutes dans l'esprit du malade imaginaire sur la qualité des médecins. Et l'idée de base de toutes ces analyses, c'est qu'en fait, la France tombe parce qu'elle est trop sociale. Ça n'est pas tellement à la France qu'ils en veulent, c'est à une certaine France qui peut évoquer celle dont Jean Ferrat faisait une chanson en 1970, après mai 68, qui était celle qui construisit de ses mains vos usines, celle de 36 à 68 chandelles. C'est cette France-là qui leur pose des problèmes et qui leur en pose encore plus naturellement depuis le 29 mai. Cette France qui décidément n'arrive pas à se convertir au modèle libéral. Et cette France à qui un certain nombre donc d'essayistes, mais appuyés par les industriels qui possèdent la presse, voudraient imposer la clause du patronat le plus favorisé.
Oui.
Donc on va chercher partout dans le monde les zones, les pays occidentaux de préférence, où le patronat vit mieux qu'ailleurs. Ça n'est pas qu'en France le patronat vit si mal que ça. On en a eu l'exemple il y a 15 jours avec le mariage de la fille de Bernard Arnault, 22 pages dans Paris Match, principale famille, principale fortune de France. Et il s'agissait d'un mariage auquel se rendaient la plupart des membres du CAC 40, un certain nombre de ministres de la République, dont le ministre de l'Économie et des Finances, et qui donnait l'occasion d'un étalage de fortune vraiment indécent qui rappelait un peu Versailles, quoi. Le Versailles et nos monarques, maintenant, ce sont ces industriels. Eh bien, ce sont les mêmes industriels qui s'inquiètent que la France tombe parce que les industriels ne gagnent pas assez d'argent en France.
C'est la faute aux sans-culottes.
C'est la faute aux sans-culottes, c'est la faute aux syndicats, c'est la faute à ceux qui réclament, c'est la faute à ceux qui revendiquent. Et à cela, on oppose toujours le courage. Et le courage, c'est toujours celui de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan ou de Raymond Barr, qui pendant longtemps a été le personnage un peu iconique, je dirais, de la vie politique française. Alors maintenant, l'incarnation du courage, comme on le sait tous, c'est Nicolas Sarkozy, qui lui propose la rupture franche et brutale avec le modèle français, dont, soit dit en passant, il reste de moins en moins à mesure qu'il a été détricoté par les réformes successives des gouvernements de droite comme de gauche. Donc on propose en quelque sorte aux Français d'être aussi courageux que les pays où le patronat, en fait, et les classes dirigeantes bénéficient d'un certain nombre d'avantages. Et pour qu'ils soient aussi courageux, les Français, il faudrait qu'ils acceptent de se dessaisir d'un certain nombre de leurs avantages acquis, et en particulier celui qui maintenant fait en quelque sorte l'unanimité, à vrai dire il y en a deux, c'est la garantie du travail, le code du travail, qui est perçu comme une contrainte absolument épouvantable, et aussi le fait que les Français travaillent beaucoup moins qu'un certain nombre de pays où on travaille beaucoup plus. Alors la question qui devrait être posée, c'est de savoir si on vit mieux dans ces pays-là. Et qui vit mieux dans ces pays-là? Mais naturellement, cette question n'est pas posée, puisque dans l'esprit de la droite française et aussi du patronat, il y a toujours eu cette hantise du temps libre. D'ailleurs, ça n'est pas incidemment que Nicolas Bavré, au moment où son livre sortait, évoquait cette idée, et je le cite presque précisément, que pour les classes dirigeantes, le temps libre, ça peut être du ski à Courchevel. En revanche, et là je cite très précisément, pour les couches les plus modestes, le temps libre, c'est l'alcoolisme, le développement de la violence, la délinquance.
Et donc autant les faire bosser. Quoi.
Donc autant les faire bosser.
Pour leur bien.
Pour leur bien, et puis pour celui de la France qui sinon continuera à tomber si elle ne suit pas l'exemple des pays où on travaille beaucoup plus.
J'ai l'impression que toutes ces critiques, je vous coupe deux secondes, viennent principalement de gens qui ne sont pas concernés, ou de même de très très loin, par cette même précarité.
Absolument. Pour eux, à vrai dire, il y a tous les cumuls de mandats et de professions, en particulier d'ailleurs quand il s'agit des éditorialistes, qui ne cessent de nous dire qu'il y a trop d'avantages acquis. Eux cumulent des salaires vraiment pharaoniques, des possibilités de s'exprimer tantôt à la radio, tantôt à la télévision, tantôt dans la presse écrite. Donc il y a à la fois les cumuls de professions, les salaires pharaoniques, qui, en quelque sorte, éveillent leur attention sur les privilèges insupportables dont bénéficieraient ceux qui gagnent 1500 ou 2000 euros par mois, voire moins. Donc tout le discours, en quelque sorte, sur le modèle français est un discours qui emprunte assez largement au registre de la haine sociale ordinaire pour les salariés qui ont réussi encore à défendre un certain nombre d'avantages, pas de privilèges, d'avantages qui ont été le produit de luttes sociales. Et il me paraît tout à fait frappant que dans ce cadre, on invoque toujours les mêmes modèles qui sont naturellement le modèle britannique, qui a l'avantage d'être en quelque sorte le modèle américain, mais mis en œuvre par quelqu'un qui est perçu comme de gauche, en tout cas qui est à la tête d'une formation historiquement de gauche, Tony Blair, ou le modèle américain. Mais le modèle américain, depuis Katrina et Bush, etc., il est un peu moins présentable, donc on ne cesse d'évoquer le modèle britannique. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de présenter dans ce dossier, qui est à la fois le discours idéologique sur le modèle, dont je rappelle au passage qu'il est assez nouveau, parce qu'il y a une vingtaine d'années, quand on cherchait des modèles à l'étranger, ça n'était pas systématiquement les modèles des pays où on travaillait davantage avec moins de garanties sociales. Le livre de Jean-Jacques Servan-Schreiber, Le défi américain, de 1967, était un livre qui présentait un certain nombre de modèles, dont le modèle suédois, dont le modèle japonais, qui avait pour caractéristique une certaine garantie de l'emploi et des avantages acquis importants. Et Jean-Jacques Servan-Schreiber expliquait même que c'est parce que les salariés avaient la garantie de l'emploi qu'ils pouvaient s'impliquer davantage dans la vie de l'entreprise et dans la proposition d'un certain nombre de, en quelque sorte, de modernisation de l'entreprise, parce qu'ils savaient qu'ils ne seraient pas les premières victimes des modernisations qu'ils proposaient. Donc je crois, pour résumer, que ce qui est très caractéristique de ces dernières années, c'est que le discours sur le modèle français aille toujours dans le même sens, qui est ce que j'évoquais tout à l'heure, le sens de la recherche du pays où existe et où vit le patronat le plus favorisé.
Au prix, et vous faites un encadré qui précise un peu les choses, d'un déni complet de la réalité, en particulier des avantages supposés de ces modèles, en particulier les chiffres du chômage en Grande-Bretagne, où on s'aperçoit que les chômeurs disparaissent, mais c'est pas parce qu'ils deviennent actifs, c'est parce qu'ils sortent des statistiques du chômage.
Oui, alors ce qui est frappant, c'est quand on fait un petit travail sur les statistiques de l'emploi aux États-Unis, on est frappé par le nombre de choses qu'on découvre qui n'apparaissent pas du tout dans la presse et dans le discours éditorial. Première chose qu'on découvre, et que l'OCDE elle-même admet, c'est que au moment où le marché du travail était complètement déréglementé au Royaume-Uni, pendant les années Thatcher par exemple, le taux de chômage était très supérieur au taux de chômage français. Et donc l'OCDE admet qu'il n'y a pas de corrélation entre la déréglementation du marché du travail et la baisse du taux de chômage. Deuxième chose qu'on découvre lorsqu'il s'agit du Royaume-Uni, c'est la place considérable qu'occupe le temps partiel. C'est dans le rapport qu'en dessus, 24,2% de l'emploi total au Royaume-Uni contre 13,4% en France.
C'est-à-dire salaire partiel aussi.
Naturellement, salaire partiel. Et il faut préciser ici que quand on fait des expériences, quand on interroge les gens, on s'aperçoit que le salaire partiel, le temps partiel, ça n'est pas du tout du temps libre. C'est du temps éclaté. C'est des gens qui doivent travailler de 8h à 10h le matin, ou de 10h à midi parce que ce sont les heures de rush, et puis après qu'on laisse se débrouiller et qu'on ne reprend que de 4h à 6h. Ce qui fait que leur vie intellectuelle, autonome, leur vie familiale même, est complètement cassée et livrée à la merci des employeurs. Autre chose qu'on découvre à propos du Royaume-Uni, et là c'est une chose que soulignent moins les libéraux qui ne cessent de présenter l'exemple britannique comme un modèle, c'est la place qu'a jouée dans la réduction du taux de chômage la création d'emplois publics. Si vous voulez, la moitié des emplois créés depuis 1997 au Royaume-Uni concerne les services administrés, dont 350 000 emplois dans la santé et autant dans l'éducation. Et ce sont les mêmes qui ne cessent de demander en France qu'on supprime le nombre d'emplois publics, qu'on ne remplace qu'un fonctionnaire sur deux, qu'on dégraisse le mammouth, qui invoquent le modèle britannique. Autre chose qu'on découvre dans le modèle britannique, et qui est, j'imagine, assez peu connue, y compris de vos auditeurs, qui sont, j'imagine et j'espère, mieux informés sur France Inter qu'ailleurs, c'est le fait que, depuis quelques années, il y a eu un quadruplement du nombre des handicapés au Royaume-Uni.
Alors, est-ce que c'est des accidents de la route, des déficiences physiologiques?
C'est que les statistiques du chômage ayant été nettoyées, un certain nombre de gens, y compris en particulier des personnes âgées, se sont fait inscrire comme handicapés. Et donc, ont bénéficié d'une autre subvention, mais qui n'est pas celle du chômage, qui est d'ailleurs, elle, de plus en plus contrôlée et de plus en plus réduite.
Et donc, du coup, vous n'êtes plus demandeur d'emploi?
Ben, naturellement, non. Vous n'êtes plus demandeur d'emploi. Vous figurez sur un autre registre. Et enfin, dernière chose qui me paraît importante, c'est que depuis 1997, c'est-à-dire depuis l'arrivée d'Anthony Blair au pouvoir, en mai 1997, le taux de chômage n'a pas baissé davantage au Royaume-Uni qu'en France.
Ah bon?
Il n'a pas baissé davantage. Il a baissé, enfin je prends les chiffres même de la lettre de l'OFCE là-dessus, depuis le 1997, je cite, le taux de chômage n'a baissé que de 2,2 points au Royaume-Uni, soit à peine plus qu'en France ou dans la zone euro. Alors que s'est-il passé? Il s'est passé tout simplement que, en France, la population en âge de travailler a cru deux fois plus vite que la population en âge de travailler au Royaume-Uni. En un sens, la France a été victime, entre guillemets, de son dynamisme démographique. Et alors là, retour en arrière. Il y a 20 ans, la France tombait parce que elle était, en quelque sorte, victime d'une panne démographique. Et c'était l'accent principal de tous les critiques de droite sur les politiques françaises. C'est, on ne fait pas assez d'enfants, il faut une politique familiale. La France est en train de tomber parce qu'elle sera moins peuplée bientôt que l'Allemagne, que l'Espagne, que l'Italie. Et là, on a un résultat qui est inverse, puisque le dynamisme démographique de la France est supérieur, je crois, au dynamisme démographique de l'ensemble des pays de l'Union européenne.
Ce qui a peut-être à voir avec ce qui reste du modèle social.
Oui, la parité, mais c'est la
pointe. Voilà. Et cette dimension-là n'apparaît pas du tout. Vous lisez le livre de Nicolas Bavré, ce que j'ai fait, c'est, je crois, 10 mots dans son livre sur le dynamisme démographique de la France, alors qu'avant, c'était le thème principal de ceux qui s'alarmaient.
Anne-Cécile Rebel, vous continuez sur ce dossier. Alors là, c'est plus tellement le cul-de-sac français, en termes sociaux, le modèle social français dont il s'agit, mais c'est plutôt celui qu'on a voulu nous proposer et qui a semble-t-il été refusé par les électeurs, c'est le modèle social européen, qui se fond parfaitement dans cette même analyse, si je comprends bien.
Oui, parce que rien n'est dû au hasard. On est dans des logiques aujourd'hui qui parcourent non seulement l'Europe, mais c'est-à-dire le reste du monde, qui font que finalement, le social passe toujours derrière les préoccupations économiques et en particulier les préoccupations en termes de compétitivité des entreprises. Et le modèle, ce qu'on appelle le modèle social européen, c'est la mise en œuvre de cette espèce de système où tout le social, toute préoccupation sociale est toujours systématiquement reléguée au profit des préoccupations des entreprises.
C'est ce que Serge Lamy appelait la clause du patronat le plus favorisé.
Et le drame, c'est que malheureusement, l'Europe se construit là-dessus. Et on a demandé à une sociologue belge qui s'appelle Corinne Gobin, qui suit très bien ces questions-là, d'essayer de nous expliquer comment cette logique s'était mise en œuvre, comment elle fonctionnait, et à l'aide d'exemples, de nous montrer concrètement ses conséquences. Alors ce qu'elle montre, sans dévoiler tout le contenu de l'article, c'est que, bon, d'une part, on est dans cette logique de subordination du social à l'économique, et elle dit que c'est une régression de civilisation. Parce qu'en revenant sur l'histoire longue, elle montre que le droit social, dans les États européens en particulier, s'est construit justement parce qu'on a pris conscience que le social avait ses caractéristiques, ses préoccupations, et qu'il fallait le prendre en compte indépendamment des préoccupations des entreprises. Et que il y avait une sorte de principe de réalité sociale qui faisait qu'on ne pouvait pas traiter de la question du chômage, de l'emploi, des droits des personnes dans le monde du travail avec les mêmes critères qu'on pouvait le faire dans le reste de la société.
D'où le droit du travail, d'où le droit social.
D'où la construction d'un État social avec des services publics, avec une réglementation publique qui sont là pour corriger les inégalités qui existent de fait dans la sphère économique. Vous savez qu'en en droit classique, on admet que des personnes qui passent un contrat entre elles sont égales. Des deux personnes sont égales en droit français. Mais si, vous pouvez pas transposer ce problème-là dans la sphère économique et sociale. Il est bien évident que quelqu'un qui demande du travail, qui va dans une entreprise pour passer un contrat de travail, n'est pas dans une situation d'égalité par rapport au chef d'entreprise. On est bien obligé de tenir compte du fait qu'une personne qui demande du travail est dans une situation d'infériorité par rapport à la personne qui peut le lui offrir. Et Corinne Gobin montre bien qu'on a construit le droit social historiquement sur la prise en compte de cette inégalité et qu'avec la logique du modèle social européen, on est en train de revenir là-dessus, et on fait comme si, d'où les thèmes du village planétaire, etc., on fait comme si on était tous de joyeux entrepreneurs qui entrent en compétition les uns avec les autres, que le meilleur gagne, d'où cette idée que les pauvres et les chômeurs sont en fait de mauvais entrepreneurs, des perdants qui n'ont rien compris au système.
Ils sont responsables de leur statut.
Juste une chose, au Royaume-Uni, les chômeurs, on les appelle clients des agences nationales pour l'emploi.
On est dans une logique qui est complètement irréaliste, là, pour le coup, quand on pense que les libéraux réclament toujours, pour eux, le principe de réalité, c'est eux qui sont dans l'irréalisme le plus total. On ne peut pas faire comme si une personne, un salarié, était dans la même situation qu'un chef d'entreprise. Et donc, dans son article, Corinne Gobin revient là-dessus, et elle démontre ce qu'elle appelle une logique de construction régressive de la construction européenne, c'est-à-dire que l'Europe construit pour détruire le droit social et pour détruire des choses que certains appellent des privilèges, mais qui sont en fait simplement la construction du bien-être des gens dans une société de progrès. Et elle prend plusieurs exemples, notamment la question du temps de travail, où elle montre comment l'Union européenne a voulu, en 1993, adopter une réglementation en matière de temps de travail, a adopté une directive qui fixe le temps hebdomadaire de travail à 48 heures, ce qui est quand même déjà beaucoup. Mais ce qui est terrible dans cette directive, nous décrit Corinne Gobin, c'est qu'il est prévu ce qu'elle appelle des bombes dérégulatrices, c'est-à-dire que non seulement c'est 48 heures, ce qui est déjà beaucoup, mais dans le calcul 48 heures hebdomadaires, mais dans le calcul de ces 48 heures, on ne tient pas compte des temps de repos, ce que disait Serge Halimi tout à l'heure à propos du modèle anglais. Donc vous pouvez être scotché à votre entreprise pendant 12 heures, mais on ne tient pas compte des temps de repos entre les temps de travail, donc c'est hyper flexible. Et en plus, la directive européenne prévoit que les patrons et les salariés peuvent déroger à cette directive par un accord entre eux. Donc voilà. Là, on est en plein délire, c'est-à-dire que on voit la régression totale, c'est-à-dire les particuliers peuvent déroger à la loi par des accords entre eux. Alors vous imaginez bien que vu la situation de l'emploi en Europe, la négociation entre les salariés et le patronat va en général tourner à l'avantage du patronat.
Est-ce que vous êtes d'accord pour travailler plus et gagner autant, en gros ?
Est-ce que vous êtes d'accord pour travailler plus et gagner moins ? Et ce qu'elle décrit, Corinne Gobin, qui est complètement hallucinant, c'est que la Commission européenne a décidé d'actualiser et d'améliorer, à ses yeux, la directive sur le temps de travail. Et donc, allègrement, elle nous propose de passer de 48 heures à 55 heures. 65 heures, oui, pardon, exactement, Bernard Cassen, à 65 heures, de continuer à flexibiliser. Puis elle dit, bon, ben, pour cette possibilité de déroger entre salariés et patrons à cette directive, ben, il faut juste qu'on l'encadre par des conventions collectives. Donc, il ne s'agit pas du tout de supprimer cette dérogation. Alors, le Parlement européen passe par là. Il dit, bon non, 65 heures c'est trop, on passe à 55, le paradis est devant nous. La question de la flexibilité dans le calcul du temps de travail reste entière. Donc on est dans une logique où quand on veut améliorer les choses, en fait, on continue à les aggraver. Et malheureusement, c'est toute la logique de l'Europe sociale qui est bâtie là-dessus. Et c'est pour ça que cette Europe sociale qu'on invoque souvent, on la voit jamais.
Marc Hassan un article à la fin de ce numéro du Monde Diplomatique sur les grandes discussions qui s'amorcent et qui se poursuivent à l'UNESCO sur la diversité culturelle.
Oui, on va ce mois-ci, dans les jours qui viennent, beaucoup parler de l'UNESCO, comme on va beaucoup parler de l'Organisation Mondiale du Commerce dans la perspective de la conférence de Hong Kong de décembre. Que se passe-t-il à l'UNESCO ? Eh bien, il y a un processus qui est sur le point d'aboutir et qui, à certains égards, est complètement contradictoire avec les processus qui sont en route, en cours, dans d'autres institutions. Je veux parler notamment de l'OMC, où l'OMC a comme vocation de marchandiser tout ce qui bouge, tout ce qui passe, y compris l'eau, la terre, l'air, toutes les activités humaines, et y compris même le corps humain. Là, à l'UNESCO, est en cours un combat qui a été engagé il y a quelques années, qui vise à reconnaître la spécificité des biens et des expressions culturelles dans les échanges commerciaux. De dire, en d'autres termes, la culture n'est pas une marchandise. Et donc, en 2001, avait été adoptée une déclaration universelle sur la diversité culturelle, qui reconnaissait le bien fondé, notamment des aides publiques à la création culturelle. Et cette déclaration est en train de se traduire dans une convention qui, elle, aurait une certaine force contraignante et qui est discutée dans les prochains jours avant le 15 octobre à l'UNESCO. Ce projet de convention reconnaît la spécificité des biens et expressions culturelles et justifie pleinement les droits qu'ont les États pour mener par exemple des politiques publiques de soutien à la culture, par exemple pour la France, à l'industrie cinématographique.
Ce qui auparavant pouvait être vu comme tricher avec les règles du marché.
Et ce qui est toujours vu comme ça par un certain nombre de délégations, notamment les États-Unis en tête, mais également l'Australie et le Japon, ils sont extrêmement actifs dans les coulisses pour saboter cette convention.
Alors, ce qu'on avait appelé l'exception culturelle à un moment.
Ce qu'on avait appelé lors de la dernière réunion du GATT en 1993, l'exception culturelle, et depuis le terme a été remplacé par promotion de la diversité culturelle, ce qui est plus juste, mais ce qui implique effectivement une exception aux règles du marché, et notamment aux règles de l'OMC. Il s'établirait, si cette convention est votée, il y a l'immense majorité des États est favorable. Il n'y en a que 5 ou 6 ou 7 qui sont actuellement hostiles. Mais très hostiles, les États-Unis, ils sont très hostiles. Si cette convention est votée, elle aboutirait à conférer à l'UNESCO une sorte de co-compétence avec l'OMC sur les biens culturels. C'est-à-dire, c'est un sérieux grain de sable qui est mis. Et en tout cas, un point d'appui pour des luttes qui pourront être menées sur ce terrain. Donc, l'UNESCO, qui est une organisation passablement léthargique, depuis en particulier que les États-Unis l'avaient quittée en 1984, si j'ai bonne mémoire, ils l'ont quittée parce qu'ils étaient en désaccord total avec la politique que l'UNESCO voulait mettre en œuvre dans ce qui était appelé le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Le dernier directeur général, celui qui est en fonction, qui est un japonais, s'est surtout distingué par son profil ultra bas, avec son seul objectif étant de faire revenir les États-Unis au sein de l'UNESCO. Et les États-Unis sont donc revenus en 2003, mais avec l'ambition affichée d'empêcher notamment le vote, la validation de la convention qui a un nom un peu plus long, qui est la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Donc c'est un combat très important qui se livre là, qui a de bonnes chances d'aboutir malgré tout, et qui va à contre-courant de l'orientation générale actuelle vers la marchandisation de toute chose, l'uniformisation, la banalisation. C'est pour ça qu'il faut l'encourager, et il faut que vos auditeurs soient attentifs à ce qui va se passer à l'UNESCO ce mois-ci.
Tous à l'UNESCO.
Monsieur le chef, ma voix s'élève pour vous annoncer sans façon que nous allons nous mettre en grève. Ce que nous voulons, nous l'aurons.
Eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez.
C'est pas assez.
Comment ? Alors, voulez-vous être augmenté de 1 000 francs ? Vous acceptez ?
C'est pas assez.
mais l'argent, on s'en fiche, nom d'une pipe. Chef, mais c'est une question de principe.
Alors, eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez.
Marseille, ça commencera à 10h sur le Vieux-Port, à Amiens à 14h30, place de la Maison de la Culture, à Guéret à 10h, place de l'Hôtel de Ville. Voilà quelques endroits. Il y a des dizaines de manifestations demain à travers tout le pays. À Paris, ce sera à 14h30 de la place de la République, en direction de la place de la Nation, en passant par la Bastille, évidemment. Donc, on vous propose pour demain, au cours de la manifestation, de faire des reportables, c'est-à-dire d'utiliser vos portables pour nous dire ce qui se passe, ce que vous voulez. Pourquoi vous braillez comme ça? Nous pouvons entendre les slogans et ce qui se passe autour de vous. C'était l'émission Avec le Monde Diplomatique, qui était animée par Guy Venti. Merci à Anne-Cécile Robert, Ignacio Ramonet, Serge Halimi, Maurice Lemoine et Bernard Cassen. Pour les repères des amis de la Bastille, j'y suis. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à www.radiofrance.fr, chaîne France Inter, à la rubrique émission La Bastille, j'y suis. Et le prochain, c'est à Limoges, le mercredi 5 à 18h30, au Woodstock Boogie Bar, 18 rue Montjovi à Limoges. C'est un des repères, je crois que ce sera le premier, la première fois que les amis de la Bastille, j'y suis, de Limoges, se retrouveront. Technique aujourd'hui, Olivier Riutor et Michel Bézikian. Réalisation, Yann Chouquet et Raphaël Moutard. Assistante, Pascal Pascariello. Le numéro du répondeur, c'est le 0156 40 37 37. Et c'est Christophe Imbert et ses grandes oreilles qui vous écoutent. Et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.